Alors, oui, nous avions commencé dimanche dernier à parler de Moïse. On a fait le premier volet, Moïse, l'enfant. Et on a remarqué que tout petit, et ça c'était intéressant quand je vois, il y a encore quelques-uns qui sont petits ici, il y a d'autres qui sont allés dans l'autre pièce derrière. Vous savez que Dieu, il a sa main dans notre vie à partir de la naissance, hein? On peut dire même avant. Il y avait un des prophètes qui a parlé d'avoir été connu par Dieu dès sa conception. En tout cas, il a eu beaucoup de grâce. La Bible parle de la beauté de cet homme. C'est un mot en hébreu qui, mais en hébreu et en grec d'ailleurs, les deux langues qui signifient non pas seulement le fait qu'il soit beau physiquement, mais qu'il avait une beauté intérieure. Et ça se remarquait. Et puis, parce qu'il est dit dans la parole qu'il était beau devant l'Éternel. Et puis, quelle grâce d'avoir les parents croyants, mais qui n'étaient pas simplement croyants, mais qui mettaient cette foi en action. Vous savez qu'ils vivaient aussi, comme nous aujourd'hui, mais dans un autre sens, des moments très très difficiles. Et pourtant, ils vivaient leur foi, et même courageusement. Et puis, vous connaissez l'histoire, hein? Maintenant, Moïse, tout bébé, il arrive à un moment, les parents ne peuvent plus le cacher, on le met dans une espèce de caisse que les parents ont fabriquée, et là, ils l'ont mis dans le Nil, et puis ça, je ne sais pas, le texte ne dit pas très clairement s'ils ont placé la caisse là où la princesse l'a trouvée, ou si la caisse avait un peu vogué dans l'île, et c'est arrêté là, c'était pris dans les roseaux. En tout cas, voilà que le jour même, la princesse est venue, c'était pas n'importe qui, elle est venue au bon endroit, le bon jour, elle a vu cette petite caisse, ça l'a intriguée, et puis elle a fait chercher la caisse, elle a ouvert, et elle a reconnu que c'était l'enfant qu'elle devait tuer. C'était un garçon parmi les Hébreux. Hein. Elle devait le tuer. C'est son père qui avait écrit les livres. Et pourtant, elle a pris de l'affection. Et puis, pas seulement ça, elle a adopté carrément. Hein. Elle a fait allaiter pendant un temps. Et puis, elle a pris chez elle. Elle a adopté. Et en fin de compte, elle a assuré qu'il puisse bénéficier de la meilleure éducation que le monde pouvait offrir à l'époque. Le hasard fait bien des choses, hein. J'espère que vous entendez l'ironie dans ma voix. Non, c'est pas l'hasard, c'est la main de Dieu qui était dans sa vie. Et quelle grâce, 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 grâce. Est-ce que vous avez connu la grâce de Dieu dans votre vie? Est-ce que vous l'avez reconnue? Oui, probablement. Nous ne voyons qu'une infime partie de tout ce que Dieu a fait pour nous. Mais nous aurons l'éternité, peut-être pour lui qu'on posait des questions, et puis de nous émerveiller de sa grâce envers chacun de nous. Moïse allait en fin de compte d'une mort certaine, parce qu'il devait mourir, comme on a dit, vers une vie exceptionnelle. Et là, mes amis, nous appelons ça tout simplement la grâce de Dieu. C'est Dieu qui l'a fait. Mais ce n'est pas unique à Moïse. Hein. C'est le chemin, comme nous avons indiqué depuis le début du culte ce matin, que tout un chacun, aujourd'hui, peut faire. Vous pouvez suivre ce même chemin. Nous sommes tous des condamnés à mort à cause de nos péchés. Mais Dieu, dans sa grâce, est venu vers nous. Et il peut nous prendre par la main et nous donne une toute nouvelle destinée. Fantastique, hein? C'est fantastique. C'est ce qu'il a fait pour Moïse. Et là, j'aimerais me tourner vers les jeunes. Levez la main si vous êtes jeune. Bon, vous êtes tous jeunes. En tout cas, vous êtes probablement tous plus jeunes que moi. Mais j'aimerais dire un mot aux jeunes. Aujourd'hui, j'aimerais vous encourager à croire que Dieu est à l'œuvre dans votre vie. Je ne veux pas vous faire comprendre que Dieu peut être à l'œuvre dans votre vie. Mais, ou peut-être qu'un jour, il va faire quelque chose pour vous. J'aimerais vous pousser à croire aujourd'hui que Dieu est maintenant à l'œuvre dans ma vie. D'accord? Et cela étant, eh bien, faites-lui confiance. Vous savez, il n'est pas un novice quand il s'agit de prendre quelqu'un tout petit, sans rien, qui est 100% dépendant et doit l'amener vers l'âge adulte et faire quelque chose de fantastique de sa vie. Il n'est pas de son premier coup d'essai. Hein. Il sait ce qu'il fait. Et vous pouvez lui faire confiance. Cherchez donc sa face. Hein? Être à l'écoute de Dieu quand vous ouvrez la parole de Dieu. Demande-lui de vous mettre sur la piste, si vous voulez, de sa volonté particulière pour vous. Priez. Cherchez sa face. Faites de votre mieux en attendant, parce que vous dites, mais je ne sais pas. Nous allons rencontrer Moïse aujourd'hui, non pas quand il avait 20 ans, ni 25, ni 30, mais 40 ans. Et entre le jour d'aujourd'hui et le jour où finalement, et vous savez à quel âge et Dieu a finalement commencé à le pousser dans la direction où il voulait aller, bon, depuis la naissance, en quelque sorte, oui. Mais le jour de son appel, il avait 80 ans. J'y suis pas encore. J'avance. Mais en attendant, faites votre mieux les choses que vous avez à faire aujourd'hui. Moïse, il a été instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Il a apparemment fait bien ses études. Il s'y est appliqué. Et c'est ce que nous avons à faire aujourd'hui. Je ne sais pas ce que vous avez à faire. Hein? Vous avez peut-être des études, vous avez un stage, vous avez faites vos pasteurs. À un moment donné, ils vous demandent, est-ce que vous ne pouvez pas faire telle chose dans l'église? Faites tout ce que Dieu vous donne à faire de tout votre cœur. Dieu va se servir de ça. Il n'y a rien qui est inutile entre les mains de Dieu. Quand il vous donne une expérience, c'est pour une raison. Peut-être que vous ne le comprendrez pas tout de suite. Mais le jour viendra où vous allez dire merci Seigneur pour telle expérience, pour telle grâce dans ma vie. Ça m'a préparé pour ce que tu veux que je fasse aujourd'hui. Et puis, prenez l'engagement de le suivre. Ça, vous n'avez pas à attendre à avoir 80 ans pour dire oui Seigneur, je suis à ta disposition. Vous pouvez aujourd'hui même, et vous n'avez même pas besoin d'attendre la fin de cette prédication pour dire Seigneur, dans mon cœur, je veux vraiment faire ta volonté. Et je me mets à ta disposition. D'accord? Prenez l'engagement de le suivre. Et je vous assure que quand vous allez devenir, parce que vous avez dit que vous étiez jeune, hein, quand vous allez devenir adulte, pleinement, avec beaucoup de responsabilités peut-être avec une famille également, que sais-je, il ne va pas vous laisser tomber non plus. Il va cheminer avec vous jusqu'à la fin. Donc je vous encourage, jeunes, vous avez beaucoup de potentiel pour Dieu, si toutefois vous le reconnaissiez dans votre vie et vous vous mettiez à sa disposition. Maintenant, Moïse, il arrive à 40 ans, il prend vraiment une décision qui va changer l'intégralité de sa vie. Ça va être une décision clé dans sa vie. Il a dû se poser des questions. Qui suis-je en réalité? Je suis né dans une famille juive, mais j'ai été élevé chez les Égyptiens. Qui suis-je en réalité? Qu'est-ce que j'aimerais faire de ma vie? Si je pouvais vraiment choisir, qu'est-ce que j'aimerais faire et quelles sont mes ambitions? Vous me dites, ce sont ça, là les questions que tous les jeunes se posent, n'est-ce pas? À un moment ou à l'autre, j'aimerais vous faire croire que ce n'est pas seulement les jeunes qui les posent. Hein? à différentes époques dans la vie, hein, ça peut nous arriver. Je remarque qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'adultes qui sont déjà bien installés dans leur vie, hein, ils ont une bonne situation, mais tout d'un coup, ils décident de tout laisser tomber et de changer de direction, pour quelque raison que ce soit. Hein. On le voit aujourd'hui, ceux qui sont peut-être dans les villes veulent aller à la campagne. Ceux qui travaillent dans les bureaux, c'est dans les fermes maintenant, que sais-je. Mais ça peut arriver à tout moment dans la vie. Je vous dis que maintenant, je suis à la retraite depuis 1 an, 2 ans. Comme je ne suis pas pratiquant, je perds le fil. Mais en tout cas, je suis à la retraite. Et là encore, je me suis dit, mais tiens, ma vie était toute tracée jusque-là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour Dieu à la retraite? Bingo, je suis de nouveau un jeune. Voyez-vous? Ça arrive à tout le monde. Mais, et encore là, je me dis, mais pourquoi Moïse voulait-il changer de voie quand il avait un avenir si prometteur à sa portée? Il était quand même le fils, considéré le fils de la fille du Pharaon. Elle avait adopté. Ben, nous allons chercher la réponse à ces questions. Essayez de découvrir la voie qu'il avait prendre. Il allait prendre dans la parole de Dieu. Donc, si vous avez votre Bible, vous pouvez chercher pour vous-même. Sinon, je vais faire comme ça a été fait jusque-là. On va mettre des textes sur l'écran. Et tout le monde peut suivre comme ça. C'est les 3 textes que nous avons vus déjà la semaine dernière. D'accord? On verra une fois dans l'Exode. C'est intéressant, c'est son témoignage, c'est lui qui l'écrit. 2e texte tout à l'heure sera dans le livre des Actes, c'est le témoignage d'Étienne, premier martyr de l'Église. 3e texte sera dans l'Épître aux Hébreux, et c'est là où nous allons nous arrêter le plus. Exode chapitre 2, versets 11 à 15, c'est Moïse donc qui raconte, en ce temps-là, moi Moïse, devenu grand, il se rendit vers ses frères, et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu entre ses frères. Il regardait de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant, et voici 2 Hébreux qui se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Et cet homme répondit, « Qui t'a établi, chef et juge, sur nous ?» Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse eut peur et dit, certainement la chose est connue. Il avait raison, hein. Parce que regardez, Pharaon a appris ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit devant Pharaon et il se retira dans le pays de Madian où il s'arrêta près d'un puits. On s'arrête là, sa vie continue. On le verra dans les semaines à venir. Premier passage, d'accord? Étienne, il dit maintenant qu'il avait 40 ans. Moïse, par modestie, peut-être, il ne l'a pas dit. Mais c'est Étienne qui nous dit, oui, il avait 40 ans. Lorsqu'il eut à cœur de se rendre auprès de ses frères, les fils d'Israël, il en vit qu'on outrageait et en prenant sa défense, il vengea celui qui était maltraité et frappa l'Égyptien. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main, mais ils ne comprenaient pas. Le jour suivant, il parut au milieu d'eux alors qu'ils se battaient, et il les exhorta à la paix. « Homme, dit-il, vous êtes frères, pourquoi vous maltraitez-vous l'un l'autre ?» Mais celui qui maltraitait son prochain le repoussa en disant, « Qui t'a établi chef et juge sur nous ?» Veux-tu me tuer comme tu as tué hier l'Égyptien? À cette parole, Moïse prit la fuite et il alla séjourner dans le pays de Madian où il engendra 2 fils. D'accord? 3e passage. Il y a des petits éléments dans chacun de ces passages qui viennent enrichir un peu le récit, n'est-ce pas? Alors, l'Épître aux Hébreux dit ceci, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Le texte continue pour parler d'autres choses qu'il a fait également par la foi, mais ce sera pour la suite. Alors, quelle était la nouvelle voie de Moïse? Lui qui était bien installé dans son palais, hein, à côté de la fille de Pharaon, qui sans doute le nourrissait et qui espérait sans doute que son fils devienne le pharaon suivant, eh bien, sa nouvelle voie, c'était libérer ses frères de leur servitude en s'identifiant avec eux. Je ne me considère plus le fils de la fille de Pharaon. Je ne vais pas devenir le prochain pharaon. J'ai une autre voie. Et quelle était sa motivation? Vous l'avez remarqué, hein, dans Hébreux chapitre 11, verset 24, c'est par la foi que Moïse agit. Ok? Ce n'est pas par ambition propre. Il n'avait aucune idée de tout ce que ça pouvait signifier, sinon beaucoup de renoncements et peut-être beaucoup de mauvaises choses. Il ne prévoyait pas toute la gloire qu'on lui attribue aujourd'hui. Hein? Mais il est motivé par la foi parce qu'il croit que c'est Dieu qui a une voie pour lui. Ce n'est pas seulement son choix à faire, c'est Dieu qui était le Seigneur des Seigneurs qui lui disait, voilà la voie pour toi. Alors donc ce matin, j'aimerais vous parler de Moïse, non pas l'enfant, mais le frère croyant. Et il est croyant, il avait de la foi. Et j'espère que vous avez de la foi aussi. Dans Hébreux chapitre 11, versets 24 à 27, dans la partie que nous avons réservée pour ce matin, il est question de trois choses qu'il a fait par la foi. Trois actions qu'il a placées. Vous avez remarqué, c'est tout simple, hein. Je tire directement du texte, il refusa. D'accord? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il préféra. Et la troisième chose, c'est qu'il regarda. Alors, si vous voulez bien, je vais me servir de ces trois choses comme un genre de tremplin, canevas pour le message de ce matin et parler dans un premier temps de sa foi qui l'a poussé à refuser. Par la foi, dit la Bible, Moïse refusa. Alors, refuser, vous savez ce que c'est, hein? Refuser, c'est le renoncement. Est-ce que c'est clair pour vous? C'est la mise au point, c'est juste? Ok, très bien. Peut-être j'ai un peu de buée sur mes lunettes. Refuser, c'est de renoncer à quelque chose. La rejeter, ne plus l'admettre ni l'accepter. D'accord? On peut encore ajouter d'autres synonymes, mais on a l'idée. Et qu'est-ce qu'il a refusé? Ben, il a refusé, il n'acceptait plus qu'on le considère comme, et on l'appelle, le fils de la fille de Pharaon. Vous imaginez ce que c'est? Je vais vous aider un petit peu. J'enlève la buée. Il y a un prince de nos jours qui a fait la même chose. Hein? Prince Harry. Et ça a stupéfait tout le monde, hein? Tout le monde était surpris. Apparemment, même dans sa famille qui n'était pas avertie de ce qui se tramait derrière. Et on appelle ça aujourd'hui le Mexique. Mexique. Alors c'est Meghan Exit, hein? La sortie. Mais c'est pas seulement elle, c'est lui aussi, on aurait pu appeler ça le Axic, ou quelque chose comme ça. Et si c'est le cas, on aurait parlé à l'époque du Moxit, Moïse qui est sorti. Et je vous assure, s'ils avaient les journaux à l'époque comme nous en avons aujourd'hui, ça aurait fait la une de tous les journaux de l'Égypte. Hein. Ah, celui-là, il était choyé toutes ces années-là. Regardez tous les privilèges qu'on a accordés à celui-là. On aurait dû le tuer au début, mais non, regardez. Et voilà comment ils rendent la chose. Hein? Ah oui, ça aurait fait la une. Et il est sorti. Mais Moïse croyait que Dieu avait un plan pour sa vie. Ce n'était pas seulement à lui de décider. Et dans le plan de Dieu, il devait justement renoncer à... D'accord ? À son identité, d'être le fils de la fille de Pharaon, afin de s'identifier avec le peuple de Dieu, et afin éventuellement de les faire sortir de l'Égypte, de leur esclavage là-bas, et retrouver pour une première fois de leur vie, la liberté dans la terre promise. Et c'était le plan de Dieu pour lui. Je suis frappé par le nombre de fois que je remarque dans le texte, dans les textes, les trois textes que nous avons lus, le mot frère. Hein? Tout d'un coup, il n'est plus la fille, le fils de la fille de Pharaon. Il est frère des esclaves. Vous voyez, Moïse se rendit chez ses frères. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Et puis dans Actes chapitre 7, il pensait que ses frères comprendraient que Dieu agissait à travers lui. Mais ils n'auraient rien compris. Mais pour lui, c'était ses frères. Ça a dû être dur pour lui. Hein? Il pense, et je ne sais pas pourquoi, quand il a 40 ans, enfin il prend la décision. S'il avait réfléchi, je pense que si... Ça avait été moi, j'aurais pris mon temps, hein. J'aurais bien pesé. Et on verra tout à l'heure, c'est exactement ce qu'il a fait. Il a bien pesé les avantages de rester le fils de la fille du Pharaon et ce que ça pouvait représenter d'être un de ses esclaves. Mais il a fait. Il a fait. Est-ce qu'il y avait du mal, imaginez un instant, qui serait resté le grand dirigeant de l'Égypte? Est-ce que c'était un mal en soi? Ben non. Joseph ne l'a-t-il pas fait? Et Dieu n'était-il pas dans la vie de Joseph aussi pour le conduire vers cette fin-là, d'être un grand dirigeant? Oui, mais remarquez comment les chemins par lequel Dieu conduit l'un est à l'opposé de l'autre. D'accord? Joseph, il commence comme un esclave. Quand il descend en Égypte, il a les mains et les pieds liés. Il est vendu comme un esclave. Mais il termine dans un palais. Formidable. Alors que pour Moïse, il a commencé tout. Bon, c'est vrai, jusqu'à 3 mois, hein, il était chez sa maman et son papa, des esclaves. Mais très vite, il est pris comme le fils de la fille de Pharaon. Il commence donc dans un palais, mais il se termine hein, parmi des esclaves. Au début, Joseph, on voulait le tuer. Mais à la fin, on l'acclamait. Tout le monde respectait. Tout le monde reconnaissait sa grandeur. Alors que pour Moïse, on l'acclamait au début. Et alors, quand le fils ou la fille de Pharaon passe dans la ville, dans son char ou quelque chose, apparemment, si nous pouvons donner un certain crédit aux écrits du grand historien juif Joseph, Moïse, il a 40 ans hein, quand il prend sa décision. Donc, il a eu le temps d'accomplir certaines choses. Et entre autres, on lui a donné la responsabilité d'une partie au moins de l'armée de l'Égypte. Et il a conduit l'armée dans les campagnes où il était vainqueur. Alors, quand cet homme-là passait dans les rues, tout le monde faisait place. Hein. Tout le monde le reconnaissait. Mais à la fin, quand il prend sa décision, là, il dit « Oups, oups, faut que je m'en aille. On va vouloir me tuer. » Et c'est exactement ça. Joseph, il a cheminé du déshonneur vers la gloire. Alors que pour Moïse, c'était le contraire. Il a commencé dans la gloire. Il est allé vers le déshonneur. Et voyant cette comparaison-là, j'aimerais bien vous dire ce matin que ce n'est pas l'un qui avait raison et l'autre qui avait tort. Que la volonté de Dieu pour l'un était bonne, mais elle était mauvaise pour l'autre. C'est que Dieu a conduit les deux par un plan personnel pour accomplir sa volonté. D'accord ? Alors c'est un grand piège, quelquefois, quand on est dans une église où il y a beaucoup d'autres jeunes, et de regarder ce que l'autre va vouloir faire et les choix que lui il va placer dans sa vie. Et puis il dit, ben, je vais faire comme lui. Ah, qui sait ? Qui sait ? C'est peut-être la volonté de Dieu pour vous. Mais il se peut aussi que la volonté de Dieu pour vous, c'est le contraire de votre copain. D'accord ? Il faut se mettre devant le Seigneur, non pas devant le copain ou la copine. Alors, bien entendu, nous aujourd'hui, notre rôle et notre place n'est pas en Égypte. Et pour nous faire cheminer justement vers une terre promise, ça c'est pas ce que nous avons à faire aujourd'hui. Dieu nous appelle, nous, comme nous avons entendu déjà deux ou trois fois ce matin, à cheminer, à quitter le monde en quelque sorte, au moins que nos yeux ne s'attachent pas, que nos cœurs ne s'attachent pas aux choses de cette terre. Non pas qu'elles sont mauvaises, qui a créé toutes choses. Merci. Dieu a créé toutes choses. Et quand il a envoyé son fils, où a-t-il envoyé son fils ? Dans le monde. Et il a vécu dans le monde. C'est pas que le monde est mauvais en soi, mais c'est pas la finalité de notre vie. Mais il nous appelle souvent à quitter ce monde comme notre idéal, comme notre, si vous voulez, là où nous allons placer tout notre cœur pour cheminer vers l'éternité avec les frères et sœurs de l'Église. N'est-ce pas Jésus qui a dit ça ? Je bâtirai mon Église. Et c'est ce qu'il fait aujourd'hui. Il n'est plus en train de construire une nation à partir d'un homme, Abraham et ses descendants. Il est en train de construire son Église. Et là, est-ce que nous sommes, est-ce que les projets que nous avons, est-ce que nos idées par rapport à qui suis-je, qu'est-ce que Dieu doit accomplir dans ma vie, est-ce qu'en répondant à ces questions-là, je me place dans le plan de Dieu. Quel est mon rôle avec mes frères et mes sœurs dans l'Église pour les aider à faire ce chemin vers la gloire avec Dieu? Il se pourra que, et c'était le cas pour lui, il se pourra que pour aller avec les uns, quand on prend ce choix-là, vous devez d'abord rompre avec les autres. Pas toujours le cas. Mais c'est le Seigneur que quelquefois, grâce à nos témoignages courageux, les autres vont voir quelque chose qu'ils n'ont pas vu ailleurs. Et ils vont être stimulés à poser des questions et peut-être éventuellement à nous suivre aussi. Mais quelquefois, il arrive que pour un chrétien, il y a un choix à faire. Et Moïse, par la foi, qu'est-ce que c'est la première chose qu'il a faite ? Il refusa. Il renonçait à. Il n'admettait plus. Puis la deuxième chose qu'il a fait par la foi, c'était de préférer. On sait tous ce que c'est de préférer. On sait tous ce que ça signifie. C'est de, normalement, d'être devant un choix, ça fait deux choses, ça fait trois choses ou plus, mais on a un choix à faire. On examine les options et on prend une décision. Et la décision qu'on prend, on dit, ben voilà, j'ai préféré ça. D'accord ? Alors la Bible dit que par rapport à Moïse, qui préféra quoi ? Être maltraité avec le peuple de Dieu, plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. C'est ce qu'il préférait. D'accord ? Il avait un choix à faire. Alors, je ne sais pas pour vous. Si on me posait un choix comme ça à faire, et qu'on me dit, voilà, vous avez deux options. Soit vous acceptez la maltraitance, soit vous acceptez la jouissance. Je ne sais pas pour vous, mais voilà, mon choix serait vite fait. Hein. Si on me disait, juste comme ça, voilà, on va vous battre, on va vous injurier, on va vous faire plein de misère, ou bien, si vous le souhaitez, vous pouvez prendre la route de la gloire, la jouissance. Moi, j'irai là, hein. Et ça, c'est humainement. C'est tout à fait humain de vouloir agir comme ça. Mais il n'a pas fait. Maintenant, petite parenthèse ici, que dire que parfois, je rencontre des chrétiens qui disent que c'est ça le choix que Dieu met devant chacun de ses enfants. Et son choix pour nous, c'est toujours la jouissance. Dieu ne nous a-t-il pas promis la richesse ? Ne nous a-t-il pas promis la santé ? Ne nous a-t-il pas promis trouver l'amour, l'âme sœur ? Peut-être le prestige social ? Et on peut continuer longtemps. Il y a certains chrétiens qui disent, si vous êtes un bon chrétien, si vous suivez vraiment la volonté de Dieu, si vous avez de la foi, ben vous aurez tout ça. En quelque sorte, c'est là où vous vivriez. Hein? Numéro 1, rue de la prospérité. C'est ça votre adresse? Je ne demande pas votre adresse postale, mais est-ce que vous avez l'impression que c'est la vie que vous menez aujourd'hui?
Non.
Bon. En pensant à ça, est-ce que Dieu nous a promis ça? Vous savez que Dieu, dans son enseignement, il parlait par exemple d'un homme riche, un riche fermier, qui apparemment il était très qualifié, hein, il connaissait bien son affaire, parce qu'il en a ramassé tellement, et il voyait venir la récolte, qu'il a dit, j'aurai pas suffisamment de place dans mes granges pour emmagasiner tout ça, je vais les abattre, c'est ce qu'il a fait. Et pendant la saison de la croissance, il a passé son temps à construire des granges plus grandes. Hein? Et puis à la fin, il a ramassé, il a emmagasiné tout dans les granges, et puis il s'est croisé les bras et dit, « Ah, maintenant, mon âme, tu peux prendre ton aise. Hein? » Et comment Dieu l'a traité? D'insensé. Il dit, « Vous ne savez pas que ce soir même, votre âme te sera redemandée. » Dieu a fait tout ce travail, pas seulement pour la récolte, mais aussi pour la construction de ces bâtiments, pour emmagasiner tout ça, mais tu ne toucheras rien. Prospérité. Il parlait aussi d'un autre homme riche qui, à sa mort, allait dans les tourments. Et voilà qu'il y avait quelqu'un de couché à sa porte. Il s'appelait comment encore ? Lazare, très bien. Et là, le riche, il allait où ? Dans les tourments, dans les flammes. Et l'autre, il allait dans ce que la Bible appelle le sein d'Abraham, dans la communion avec ce grand prophète d'autrefois. Alors, il pose cette question finalement aussi, que sert-il à un homme de gagner le monde entier? Ça serait la prospérité. Vous n'aimeriez pas ça? Gagner le monde entier? Ce serait une grande responsabilité, hein? Mais à quoi servira-t-il ce gain-là si vous devez perdre votre âme pour le faire? Hébreux 11 aussi, c'est le chapitre qui nous intéresse le plus ce matin des trois. est comme une espèce de galerie des hommes et des femmes de foi et les choses qui leur sont arrivées. Mais est-ce qu'ils ont tous connu la vérité, enfin la prospérité? Bon, on va les voir. Le premier qui est mentionné, c'est Abel. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Par son propre frère. Noé! Ah, Noé! On a même fait des films sur Noé, le déluge. Ah, ça devait être une vie absolument fantastique, celle de Noé, n'est-ce pas? Ah non, il devait se dresser pour Dieu, tenir pour Dieu, pour le plan de Dieu dans sa vie, contre toute la société qu'il connaissait. Construire une arche, traverser un déluge. Je ne sais pas pour vous, j'avais jamais mis ça sur un plan de mes propres ambitions. Hein. Abraham et Sarah. Ah, ouais. Là, appelé par Dieu, oui, mais encore, appelé à tout quitter. Hein? Patrie, maison, enfin, famille, etc. Et aller vers, ben, il ne savait pas. Il savait que une chose, il y avait un guide. Il fallait tout simplement suivre le guide. Et ils sont bien arrivés. Et Dieu lui a même dit, mais allez-y, allez, parcourez toute cette terre ici, que nous appelons aujourd'hui, enfin Israël de nos jours, mais dans l'histoire c'était la Palestine, c'était le Canaan, terre promise. Et Dieu lui dit, allez-y, promenez-vous partout. Ce sera à vos descendants. Et il a fait. Et il est mort. Et vous savez ce qu'il possédait dans cette terre qui était entièrement à lui? Un sépulcre. Quand son épouse est décédée, il a négocié l'achat d'un petit terrain pour enterrer son épouse Sarah. C'est tout. C'est tout ce qu'il avait. Et puis à la fin de ce chapitre, nous lisons ceci, que d'autres encore furent livrés au tourment, ils n'acceptèrent point la délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent quoi? Moquerie? C'est ce que vous avez planifié pour votre vie? Pas si vous êtes comme moi. Le fouet, les chaînes, la prison, ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent, tués par l'épée. Ils allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne, ils étaient errants dans les déserts, dans les montagnes, dans les cavernes, dans les antres de la terre. Tout cela, à la fois desquels il était rendu témoignage. Ça signifie qu'il n'y a personne qui a jamais mis en doute la qualité de la foi de ces personnes. Et pourtant, ils n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. En tout cas, pas dans le vivant. Voyez? Est-ce que Dieu a promis que si vous êtes un bon chrétien, que vous avez plein de foi, que vous allez sûrement vivre rue de la prospérité? Apparemment pas. Apparemment pas. Mais il ne vous abandonne pas pour autant. Si Moïse a fait le choix de tourner le dos aux jouissances du péché, en cherchant son propre avantage, tel qu'il aurait peut-être conçu, c'est parce qu'il voyait autre chose, beaucoup plus importante pour lui, s'identifier avec le peuple de Dieu. C'est ça. Ce sont mes frères. Ce sont mes sœurs. Oh oui, comme pour Moïse, son premier contact avec les frères et les sœurs, c'était comment? Un bon contact? Il arrive que parfois, les personnes qui sont de la même famille ne s'entendent pas trop. Et c'est ce qui lui est arrivé. Il a dû fuir, non pas seulement l'Égypte, non pas seulement la fille du pharaon, mais aussi son peuple. C'était son choix. C'était son choix. Pourquoi il a fait tout ça? Ça semble bête, n'est-ce pas?
Eh bien, la fait par la foi.
Pour lui, en quelque sorte, il n'y avait pas de choix à faire. Dieu avait fait le choix pour lui et il a laissé Dieu choisir. Et puis troisièmement, il faut que je me dépêche parce que sinon je vais vraiment devoir prêcher jusqu'à minuit. Par la foi, il regarda. Il regarda. La première chose, par la foi, il renonçait. Par la foi aussi, il préférait. Et maintenant, par la foi, il regardait. Regardez-moi. Ok, vous me voyez? Est-ce que vous me regardez? Oui, dans un sens, mais ce n'est pas le sens de ce mot-là. Les autres mots ne posent pas trop de problèmes, mais ce mot « regarde » ou « regarder » a un autre sens. Ça ne signifie pas simplement de voir, ni même seulement de fixer l'attention sur quelque chose. Mais en regardant quelque chose, c'est de lui donner une valeur. Et c'est pour cela qu'on va rester hein, les yeux sur cette chose-là aussi. Parce que c'est important pour nous. Et c'est pour cela que dans certaines versions, à la place de « par la foi, Moïse regarda », vous voyez la traduction « par la foi, Moïse estima ». D'accord ? Il a vu quelque chose qui avait de la valeur pour lui. Alors, on regarde tout ce qui est important pour nous. Alors, je n'avais pas de photo de cette... J'aurais dû prendre une photo. J'aurais pu vous mettre là. Mais vous vous imaginez. Vous savez, vous allez au culte. Qu'est-ce qui vous attire quand vous arrivez dans la salle de culte? Ben, pour certaines, s'il y a quelque chose sur l'écran déjà, ils sont tout de suite attirés par ce qui est affiché. Pour d'autres personnes, c'est les autres qui sont présents. Ou peut-être qu'ils sont absents pour une fois. Ce sont les personnes qui les attirent. Pour les autres, c'est le décor. Hein, ou peut-être encore la propreté de la pièce. Merci d'ailleurs à tous ceux qui, à tour de rôle, font tout ce travail. Hein, de mettre les choses en place, nettoyer tout. Ça, c'est souvent le premier et plus grand témoignage d'une église locale. Les visiteurs qui viennent, et ils vont peut-être pas remarquer si tout est propre et en place, mais ils remarqueront si ce n'est pas le cas. Pas vrai? Oui, oui. Oh, c'est dérangé chez eux. Oui. Donc, merci beaucoup. Et il y a certaines personnes qu'en arrivant dans la salle de culte, ben, ils sont attirés par ça. Il y a d'autres, ils vont voir les comportements. Les enfants qui courent, quelqu'un qui parle à quelqu'un d'autre. Enfin, ça dépend. Alors, il n'y a rien ici qui est plus important que d'autres. Je ne suis pas en train de dire que si vous regardez l'écran, vous êtes meilleur que celui qui regarde. Non, ça c'est chacun qui voit, hein, tout simplement. Mais nous faisons tout ça, mais... Dans notre cerveau, d'ailleurs, les scientifiques disent que selon notre estimation, nous allons fixer notre attention sur quelque chose en particulier. D'accord? Ma question à moi, c'était qu'est-ce qui a attiré l'attention de Moïse? Sur quoi fixait lui son attention? Alors la Bible nous dit dans Hébreux 11, il regarde à quoi? L'opprobre de Christ, comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, parce que il avait les yeux fixés sur la rémunération. Alors, qu'est-ce qu'il regardait, l'opprobre de Christ? Quelle était l'autre option? Les trésors de l'Égypte. Lequel des deux attirait son attention le plus? Ben, c'était l'opprobre de Christ. Pourquoi? Parce que il voyait qu'à la fin, il y avait une rémunération. Je peux avoir quelques jouissances du péché. Je peux faire ce que je veux si je suis un prince en Égypte. Personne ne pourrait jamais me contredire, ni me critiquer, ni rien. Je peux faire ce que je peux jouir à max. Pour un temps. Mais autrement, si je fixe mes regards sur l'opprobre de Christ, j'attendrai une autre rémunération. C'est comme s'il disait quelque chose comme ceci, m'attacher à l'opprobre de Christ me rapportera dans l'éternité plus que tous les trésors de l'Égypte. Alors tout d'un coup, quand il réfléchit, c'est pour cela que je disais tout à l'heure, je pense qu'il a mis du temps, hein, à considérer tout ça, à réfléchir sur tout ça, prendre sa décision. Ce n'était pas chose facile pour lui. Mais qu'est-ce qu'un opprobre, hein? Quand on dit qu'il valorisait l'opprobre de Christ, qu'est-ce que c'est un opprobre? Ben, un opprobre, c'est une réprobation publique. Une critique, une blinde, être blâmé publiquement devant les autres. Et cette critique-là va nous gêner, ça va nous apporter de la honte. Il y a une histoire dans la Bible que vous connaissez bien. Je ne sais pas si vous voyez bien l'image. C'est Pierre qui est là. C'est le soir où Jésus-Christ a été arrêté. D'ailleurs, il est là en haut. On l'amène pour être jugé. Mais dans la cour en bas, qu'est-ce qui se passe? Ah, toi, tu es un de ceux-là, non? Je ne connais pas. Tout d'un coup, il ressentait la honte de son identification avec Christ. Est-ce que ça peut nous arriver? Oh oui. Ne jetez pas trop vite la pierre à Pierre. Parce que ça peut arriver à tout le monde. Merci Seigneur, il n'est pas resté là, hein, dans cette position. Alors pour Moïse, c'était autre. L'opprobre pour les Hébreux à l'époque s'exprimait dans les traitements très, très durs de l'esclavage. D'ailleurs, il a vengé un frère qui était battu, hein, par un Égyptien. Il savait bien ce que l'opprobre pouvait représenter pour lui. Mais là, je me demande, mais quel est l'opprobre de Christ, hein? Parce qu'il avait les yeux fixés non pas sur l'opprobre de Pierre, ni l'opprobre nécessairement des Hébreux autour de lui. Qu'est-ce que ça signifiait pour lui de penser à l'opprobre de Christ et de trouver que là, il y avait quelque chose de super valable? Eh bien, le mot Christ signifie quoi? Bon, c'est le même mot que nous trouvons dans l'Ancien Testament, mais pas toujours traduit de cette façon-là, mais vous connaissez le mot Messie. C'est un mot en hébreu, le mot Christ, Christos, vient du grec. Les deux mots signifient exactement la même chose. Quelqu'un qui est oint. C'est pour cela qu'on entend parfois, on lit dans l'Ancien Testament, où il est question de loin de l'Éternel. Notre frère a dit tout à l'heure, c'est L apostrophe, hein? Celui qui est oint, le oint. De l'Éternel. Vous savez, à l'époque, Dieu demandait de désigner officiellement celui qu'il avait choisi pour une mission particulière, en lui mettant de l'huile sur la tête. Et on l'appelait alors un Christ, un Messie, ou loin de l'Éternel. C'était des choses qui arrivaient, par exemple, pour les prêtres, quand ils entraient en fonction. Ils passaient par un moment très solennel où ils étaient loin. C'était la même chose pour les rois. D'ailleurs, curieusement, même pour certains rois païens, Cyrus est appelé roi perse. Il est appelé un Christ, un Messie, un loin de l'Éternel, parce que Dieu l'avait désigné pour quelque chose qu'il devait accomplir. Alors, qui est loin? Qui est ce Christ dont il est question dans ce verset? Alors, qui selon la compréhension de Moïse, qui était celui que Dieu avait choisi pour une mission particulière. Peut-être il pensait à lui-même. Il est dit dans la Bible qu'il pensait, il pensait que ses frères comprendraient que c'était par lui que Dieu allait les délivrer de leur esclavage. Dieu m'a désigné pour faire ça. J'ai cette mission particulière à faire. Je suis en quelque sorte loin de l'Éternel pour cette mission-là. Ok? Est-ce qu'il a pu penser à Jésus-Christ? Bon, peut-être il n'aurait pas connu le mot Jésus. Mais il savait que Dieu, il n'était pas le seul que Dieu voulait envoyer pour une mission particulière de salut. Il a même dit, c'est lui qui a écrit, vers la fin de sa vie, il dit à ses frères, à la nation, « L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. » Vous voyez? Alors, ou bien, donc, il pensait, comme un grand trésor, ce qu'il devait supporter. Et il était prêt à le faire. Et pour lui, ça aurait été un grand trésor que de souffrir pour délivrer son peuple de leur esclavage. Ou bien, il considérait comme un trésor ce que Jésus, le Christ à venir, le Messie à venir, loin à venir, ce que lui, il allait supporter pour délivrer les pécheurs. D'accord? Alors, cet opprobre-là, l'opprobre de Christ, forcément, avait beaucoup plus de valeur. Pourquoi? Parce que si Jésus ne l'acceptait pas, si lui n'acceptait pas tout l'opprobre qui était tombé sur lui pour mon salut, pour votre salut, et s'il a dit, non, je refuse. Je refuse d'accepter cet opprobre-là. Cette blâme publique. D'être maltraité et tout. Je ne vais pas le faire. Eh bien, dans ce cas-là, Moïse n'allait jamais être sauvé. Dans le sens spirituel, hein. Ni les Israélites, ni vous, ni moi. Il n'y aurait pas eu de salut. Parce que la Bible dit qu'il n'y a de salut en aucun autre que Jésus-Christ. Mais il y a de salut en lui, parce qu'il a accepté. Et Pierre nous parle justement de lui. Et vous voyez l'opprobre de Christ dans ce que Pierre a écrit dans 1 Pierre 2, 23, 24. J'ai un peu mis en surbrillance là. Il était injurié. Hein? Il a été maltraité. Il a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Vous voyez? Il est question aussi de ses meurtrissures. Il a accepté tout ça pour votre salut et pour le mien. Et c'était nécessaire. Il n'y avait pas un autre moyen. Mais à la fin, qu'est-ce que nous voyons? Où est la valeur dans toutes ces souffrances-là? La valeur dans les souffrances de Christ sont des conséquences de son opprobre accepté. Qu'est-ce qui est arrivé? Nous pouvons maintenant, nous sommes libres pour vivre selon la justice. Nous avons été guéris de cette maladie de péché, guéris aussi de la condamnation qui pesait sur nous en tant que pécheurs. Tout cela, Christ a pris pour nous. C'est absolument formidable. Mais il a fallu qu'il accepte l'opprobre. Il y a un bon verset. Vous le lirez, ça me vient à l'esprit maintenant. Je ne l'ai pas mis dans un diapo ici. Mais c'est dans Ésaïe chapitre 53, vers la fin de ce chapitre. Il a dit qu'il a vu Jésus. Hein, il a vu d'avance le travail de son âme. Ce que cela allait apporter. Et c'était avec joie, donc, qu'il est allé sur la croix. Et Moïse, c'était pareil. Est-ce qu'ils connaissaient Jésus-Christ? Oh, dans une certaine mesure, on a vu l'autre verset où il savait que quelqu'un devait venir. Quelqu'un comme lui. D'ailleurs, c'est très intéressant de faire le parallèle entre Moïse, ce qu'il a fait, et Christ, et ce qu'il a fait lui. Mais il a aussi prophétisé la venue de Jésus-Christ dans la Genèse. Il a écrit la Genèse. Genèse chapitre 3, verset 15. Il parle au serpent dans le jardin d'Éden, au moment de la malédiction. Et il a dit au serpent, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité, serpent, et sa postérité, celle de la femme. Celle-ci, postérité de la femme, t'écrasera la tête, Satan, et tu lui blesseras le talon. » C'est exactement ce qui s'est passé. Jésus-Christ a accepté d'être blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures, ce que cite Pierre, c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Formidable, formidable. Alors ce que Moïse a fait, ce qu'il a décidé, hein, quand il a renoncé, préféré, estimé, c'était de l'obéir à Dieu pour délivrer les Juifs à son époque, ses frères, est une illustration de ce que Jésus allait faire, c'est-à-dire obéir aussi au Père pour nous délivrer de nos péchés. Magnifique parallèle, là, n'est-ce pas? Et puis, on peut résumer en disant que par ses écrits et ses actes, Moïse prévoyait l'opprobre de Christ. Et il participait ainsi aussi au salut du monde. Lui, Moïse. Et c'était une meilleure rémunération pour lui que toute la jouissance du péché en Égypte à l'époque. Est-ce qu'il a touché sa rémunération? C'est une chose d'espérer être rémunéré. Là, il a consenti beaucoup de choses, hein. Là, il a renoncé à un paquet de choses, un paquet de privilèges, de joie, de tout ce qu'on peut imaginer, dans l'espoir d'être rémunéré. Est-ce qu'il a jamais été payé? Je crois que si. On les retrouve ensemble. Jésus, celui qui n'aurait jamais pu prononcer son nom, hein, son prénom, mais il a parlé de lui, sans le connaître. Et les voilà, tous les deux. Et un troisième qui est avec eux. Vous vous souvenez? Élie. Hein? Sur le mont de la transfiguration. Et ils sont là, tous les trois. Et là, dans Luc chapitre 9, nous lisons ceci, que pendant qu'il priait Jésus, il était en prière, l'aspect de son visage changea, son vêtement devint d'une éclatante blancheur, et voici deux hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie, vous voyez, qui apparaissaient dans la gloire. Et il parlait de son, le mot dans vos Bibles, c'est parler de son départ. Le mot en grec, c'est le mot exodus. Exode. Il parlait, Moïse, Élie, Jésus, de l'Exode, que Jésus allait accomplir à Jérusalem. Formidable. Oui, parce que Moïse, d'accord, Moïse, il a eu un rôle, il a permis au peuple de Juifs de quitter leur esclavage en Égypte, n'est-ce pas, pour aller vers la terre promise. Dieu a permis à Élie aussi d'être enlevé, de faire son exode directement au ciel, par la grâce. Et puis Jésus-Christ nous permet de quitter une vie de péché afin de vivre pour lui et dans toute l'éternité. Vous voyez? Ils sont tous liés. Hein? Est-ce que vous êtes dans le programme là, dans le plan de Dieu? Oui, vous êtes. Mais à vous de choisir de profiter. Peut-être aujourd'hui, c'est un jour de décision pour vous, tout comme ça a été un jour pour Moïse. Il a pesé tout ça. Il dit, je sais le choix que je vais prendre. Moïse n'avait ni prophétisé, ni travaillé en vain. Ceux qui l'ont suivi ont été délivrés de leur esclavage en Égypte. Et lui aussi, par ses prophéties, dirige notre attention à Jésus qui nous sauve de notre esclavage au péché. Alors, une vie de foi. Hein? Tout ça, il a fait par la foi. Il ne voyait pas. Il a consenti toutes ces choses-là pour quelque chose qu'il n'allait jamais pleinement voir avant le jour où il est déjà mort depuis des siècles. On le voit avec Christ dans la communion et dans le ciel. Par la foi, Moïse a rompu avec son identité égyptienne. C'était son exode. Par la foi, il cherchait à délivrer ses frères de leur esclavage en Égypte. C'était de participer à leur exode. Et par la foi, Moïse voyait à l'avance l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. C'est votre exode, si vous le choisissez. Alors, homme de foi, hein? Permettez-moi de vous poser la question en terminant. Quel avantage y a-t-il, quel avenir avez-vous à rester attaché au monde? Parce que vous avez peut-être une décision comme celle de Moïse. Voilà mon monde à moi, où tout semble aller pour le mieux. Voilà le monde que Dieu me propose. Quel avantage finalement, quand on regarde l'éternité en face, quel avantage y a-t-il de rester dans ce monde-ci, s'attacher aux choses de ce monde? À chacun de nous de choisir ce qui compte le plus. Hein? Et si nécessaire, changer d'orientation. Et je vous invite à le faire si c'est nécessaire et si Dieu vous le met dans le cœur aujourd'hui. Je vais terminer en priant. Je pense que oui, c'est le dernier. On va terminer en priant. Et je vous invite en même temps, si vous êtes là aujourd'hui et vous me dites... J'ai jamais compris que j'étais à un moment de décision comme là aujourd'hui, comme celle que Moïse a dû faire. Mais aujourd'hui, je veux choisir Christ. Je veux choisir de le suivre, de m'appuyer sur lui, qui soit mon sauveur et mon Seigneur. Vous pouvez le dire, on va prier. Merci notre Dieu. Tu entends nos prières, la mienne qui est dite à haute voix, mais aussi, Seigneur, les prières des uns et des autres qui s'adressent aussi en même temps à toi et qui voudraient te dire ce qu'ils ont sur le cœur. Et Seigneur, je te demande tout simplement que si parmi ceux-là, il y en a même juste un qui n'a jamais encore reçu Christ pour son Sauveur et son Seigneur et de dire « Je m'identifie avec lui. C'est lui que je veux pour l'éternité. Et je veux marcher dans ses pas. Aide-le à la faire, Seigneur, et qu'aujourd'hui soit encore jour de salut au nom de Jésus-Christ. Amen. »